Bonsoir. Contempler les anneaux de Saturne sous une fine bruine, ouais, de glace océanique, ça vous tente? Vous écoutez Moteur de recherche. Et ce soir, un moteur de recherche qui reçoit et qui répond à vos questions en techno, santé, consommation, environnement. On va parler ce soir de rouler. Oui, rouler à moto ou en auto. Qu'est-ce qui est plus vert? Les matériaux qui servent à fabriquer le matériel de protection médicale. On en parle beaucoup de ce matériel-là. Ben, d'où viennent-ils? Quelle est leur chaîne d'approvisionnement? Il y a aussi une entrevue qui va, j'en suis sûr, vous toucher parce que ça va toucher à vos données médicales. Le gouvernement veut les partager, veut les vendre, vos données médicales. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Et finalement, on va faire un tour d'avion, oui, mais virtuellement dans un jeu vidéo dont on dit qu'il est le plus beau jeu vidéo au monde, Microsoft Flight Simulator. Et il sera aussi question, oui, de fines bruines de glace océanique extraterrestre. Oui, et ce n'est pas de la science-fiction. C'est vrai, ce n'est pas de la science-fiction. Bonsoir tout le monde, ou bonjour si vous nous écoutez en rattrapage. C'est toujours un plaisir de vous avoir là. Vous nous écrivez vraiment nombreuses et nombreux. Vous avez toutes sortes de commentaires. N'hésitez pas à les faire. Hein. On prend la critique, on prend les commentaires et on lit attentivement tous vos courriels. Ça nous fait très plaisir d'ailleurs de les prendre, de les redistribuer comme ça à nos collaboratrices, à nos collaborateurs. Et donc, ce soir, on a des nouvelles collaboratrices. Vous savez qu'on a une équipe vraiment assez grande, merci. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas encore fait leur premier tour de piste ici à un moteur de recherche. Et donc, ça me fait très, très plaisir de recevoir ce soir Laure Patouillard. Bonsoir, Laure.
Bonsoir.
Laure, donc, qui nous vient de Polytechnique Montréal, ce groupe de recherche, le CIREG, qui s'intéresse au cycle de vie. Toutes sortes de cycles de vie, hein. C'est la nourriture. Et donc, ce soir, ce sont les motos et les autos, parce qu'on a eu une question là-dessus. Il y en a beaucoup sur les routes ces jours-ci. Et donc, vous avez vraiment littéralement désossé la consommation énergétique de ces deux modes de transport, pour le moins populaire.
Exact.
Alors, bienvenue parmi nous. Il y a également, on va aller joindre à Trois-Rivières, Madeleine Goubeau, bonsoir.
Bonsoir Mathieu.
Très content de vous savoir là aussi. Et là, vraiment, c'est vraiment la mode, vraiment sous tous ces aspects que vous allez nous faire découvrir et redécouvrir cette année. Donc, des gens qui nous ont envoyé des questions à ce sujet. Quelle est cette chaîne d'approvisionnement? Quelles sont ces matières qui sont utilisées dans les différents les vêtements, les outils de protection? Et donc, vous avez remonté cette chaîne-là. Et on se pose aussi la question à savoir, est-ce que ces chaînes sont vraiment fiables, ces chaînes d'approvisionnement? Donc, je rappelle que vous êtes chargé de cours à l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM. Rebienvenue parmi nous, Madeleine Goubeau.
Merci beaucoup.
Et on a en studio, parce que vous le savez, hein, depuis peu, on a le droit à un invité, en fait, une personne par jour en studio. Et donc, celui qui s'y colle aujourd'hui, il est à 2 mètres. Je suis à plus de 2 mètres de ses gouttelettes, mais très, très proche, vraiment mentalement, de Fabien Lozac. Bonsoir, Fabien.
Bonsoir, Mathieu. En présentiel, comme
en
on
présentiel,
dit dans le monde de l'entreprise.
Vous savez qu'il y en a des gens qui détestent
je
ça.
Je déteste ce mot. C'est très laid, présentiel.
Oui, ben, en tout cas, vous allez faire plaisir à nos auditrices et nos auditeurs. On soit des trollés de courriel à chaque fois que je prononce ce mot-là. Donc, de gens qui détestent ça.
Je les comprends.
Il y a aussi le présentiel synchrone. Hein, vous savez qui est, c'est une coche au-dessus.
Ouais.
On va parler de simulateurs d'avion ce soir parce qu'on a eu quelqu'un qui nous a demandé, en fait, on a dit de la nouvelle version du Flight Simulator de Microsoft qu'il est le plus beau jeu vidéo du monde. Et là, on ne peut pas voyager tellement dans le monde. Est-ce que ce Flight Simulator peut remplacer ce voyage-là? Et quand on parle de simulateur, là, on parle vraiment de quelque chose qui, quand on le pilote, en fait, quand on pilote les appareils dans ce jeu vidéo-là, on est très, très proche là, de ce que peut ressentir un pilote.
Très, très
là.
Proche. Mm-hmm. Il y a beaucoup de qualificatifs sur ce jeu-là. Simulation totale. Ouais, ouais. Jeu extraordinaire là, quand on le voit. Simulation et puis aussi ce réalisme qui transcende le jeu.
Oui, assez... parce que quand on va à Paris, on voit vraiment les rues de Paris. Quand on va un peu partout, en
quand
fait...
Quand vous volez sur votre maison, vous voyez votre maison.
Mm-hmm, mm-hmm. Anecdote comme ça, moi, quand j'ai commencé à utiliser les ordinateurs à la fin des années 80, je jouais au Flight Simulator sur un Mac classique. C'était en noir et blanc, il y avait des lignes, on ne voyait pas grand-chose. Et mes parents m'avaient donné un PowerBook 150, donc un portable PowerBook 150. La première chose que j'ai fait quand j'ai reçu mon PowerBook au début de mon cégep, je n'ai pas écrit des devoirs dessus. J'ai joué à Flight Simulator, mais sur le PowerBook, qui était beaucoup plus puissant que le Mac classique. Et c'est en 4 tons de gris. Donc, pour moi, c'était de passer littéralement là, du cinéma muet au cinéma parlant. Et donc, on est rendu dans des définitions là, qui sont très, très loin de ça. Mais j'ai hâte que vous nous parliez de cette nouvelle itération. Et on aura aussi tout à l'heure Bryn Williams-Jones, donc de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Le gouvernement du Québec veut vendre vos données musicales. Si c'était ça, les données médicales. On va parler avec lui, coudonc. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on a un environnement réglementaire qui permet de le faire d'une manière, disons, qui va permettre de protéger votre vie privée? Donc, tout ça et bien plus dans cette édition de Moteur de recherche.
Moteur de recherche, environnement.
Et donc, on nous a demandé, parce que nos auditrices, nos auditeurs sont très observatrices, sont très observateurs, et donc les gens se promènent sur les routes, voient des autos, des motos, et se disent, coudonc, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux de rouler en moto ou en auto si on veut rouler plus vert? Eh bien, vraiment, ça tombe vraiment dans les cordes de Laure Patouillard qu'on accueille pour cette nouvelle saison de Moteur de recherche pour une première fois. Rebonsoir, Laure.
Oui, rebonsoir.
Bon, premièrement, quels sont les usages de la moto? Là? Qui roule en moto? Quelles sont les statistiques là-dessus?
Oui, c'est ça. Je me demandais, parce que sur la route aussi, j'en voyais quelques-uns pendant mes vacances. Puis en fait, c'est 3 % des immatriculations au Canada qui sont pour des motos. Donc là, c'est sûr qu'on n'a rien à voir avec les pays asiatiques, là où on a plus de 60 % de la flotte de véhicules qui est des motocycles, en fait, de divers types. Puis c'est pas simple de savoir comment les gens utilisent leur moto au Canada. Statistique Canada nous dit la navette domicile-travail, elle est très, très peu faite en moto. C'est vraiment négligeable. Donc, moi, je me dis, bon, bah, ça reste alors plutôt un usage récréatif. Mais là, c'est juste une partie de l'année parce qu'on peut rouler que quand les routes ne sont pas enneigées. Et puis, j'ai trouvé une statistique, c'était que les motocyclistes québécois, ils parcourraient en moyenne 3000 à 4000 km par an. Donc, finalement, assez peu quand même.
Pas beaucoup. Hein. Je connais des cyclistes qui roulent pas mal plus que ça. Ouais. Quels sont les impacts environnementaux, justement, liés à l'utilisation d'une moto? Parce qu'on peut penser que si on l'utilise peu durant l'année, ben ça augmente l'empreinte, non?
Ben, en fait, quand on utilise la moto, on brûle du carburant. Puis quand on brûle du carburant, on va avoir des émissions dans l'environnement. Ça, vous le savez. Mm-hmm. Puis donc, on va avoir différents types d'émissions. On va avoir, par exemple, les émissions de CO2 qui, elles, ont vraiment un effet à l'échelle mondiale sur l'accélération des changements climatiques. Mais on a aussi des émissions d'autres polluants qui ont un effet beaucoup plus à l'échelle locale sur la santé humaine et sur la qualité des écosystèmes. Par exemple, on a les particules fines qui vont augmenter la prévalence des maladies respiratoires dans la population qui est exposée. Et donc, plus on va être en zone urbaine, plus il y a de monde, plus potentiellement il y a de problèmes avec ça. Et puis, on a aussi, par exemple, les oxydes d'azote ou les composés organiques volatiles, eux qui participent à la formation du fameux smog qu'on trouve en été. Puis ça, c'est maladies respiratoires, diminution de la photosynthèse chez les plantes. Mmh. Donc, tout ça, c'est dû à la combustion, justement, des carburants dans les véhicules. Mais il faut voir que d'une moto à une autre, ça va être très différent, ces niveaux d'émissions. Puis ça va être influencé par plusieurs facteurs. Le premier facteur vraiment important, c'est la quantité de carburant consommé. Puis ça va être influencé par la puissance de la moto, son poids, bien sûr, notre style de conduite, la vitesse à laquelle on va, la rugosité de la route. Bref, il y a beaucoup de choses qui influencent ça. Mmh. Mais il y a d'autres effets aussi, comme la motorisation, par exemple, qui va influencer sur les émissions de particules fines. Les moteurs 2 temps, par exemple, ils génèrent plus de particules fines que les moteurs 4 temps. Mmh. Et là, on trouve encore plein d'autres choses, comme l'âge de la moto, la température extérieure, etc. Donc ça, c'est une panoplie d'impacts environnementaux auxquels on pense beaucoup. Mais il y a une autre chose auxquelles on pense parfois, c'est on dit, OK, la moto, ça fait du bruit. Donc on pense pollution sonore. Et c'est vrai que l'exposition au bruit, ultimement, ça a un impact sur la santé humaine. Et il y a d'ailleurs de plus en plus de recherches qui sont en train de quantifier ces impacts. Ouais. Mais bon, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'une moto, normalement, elle est censée, en sortie d'usine, ne pas être si bruyante que ça, parce qu'il y a des réglementations.
Ouais, ça dépend des marques.
Oui, c'est ça, ouais. ne me partez pas sur les Harley-Davidson Straight Pipe, s'il vous plaît, Laure.
Je suis désolée, je m'y connais vraiment pas.
Non,
ça.
Mais je vais avoir une plainte à l'Ombudsman, c'est sûr, si je parle de...
C'est la majorité du marché en Amérique du Nord.
Pardon,
Harley-Davidson, c'est la majorité du marché des motos en Amérique du Nord. Mm-hmm, mm-hmm.
Mais évidemment, elles ne sont pas toutes donc avec un échappement qui a été modifié, là, le fameux Straight Pipe. Mais donc, comment se comparent les performances d'une moto et d'une auto, justement, d'un point de vue énergétique?
Ben oui, parce que ben moi, je me disais, OK, on pense à une moto, on se dit, ben, c'est moins lourd à déplacer qu'une auto, donc ben, ça devrait polluer moins. Puis c'est vrai qu'une moto, c'est environ 10 fois moins lourd qu'une auto. Mais ce qu'on oublie là-dedans, c'est un élément crucial dans cette comparaison, c'est que même si les deux véhicules ils sont utiles pour transporter des passagers, ben, une moto et une auto, ça ne rend pas tout à fait le même service. On peut transporter plus de personnes à la fois dans une auto, on peut transporter plus de bagages, on est à l'abri des intempéries, etc., etc. Donc là, il faut trouver comme une sorte de base de comparaison qui soit juste entre l'auto puis la moto. Et donc, celle qui est couramment utilisée, c'est dire qu'on va transporter un passager sur un kilomètre. Et comme ça, on pourra prendre en compte le fait qu'on peut transporter jusqu'à 5 personnes dans une auto, par exemple, et répartir l'impact total du véhicule par passager. Puis, il y a un autre aspect aussi, c'est que pour comparer l'auto puis la moto, c'est important de ne pas juste prendre en compte les émissions à l'échappement, vraiment la partie « je brûle du carburant », mais vraiment toutes les étapes du cycle de vie, production du carburant, la production du véhicule, la fin de vie, toutes les infrastructures, etc. Donc ça, c'est ma job, le cycle de vie.
Oui, mais pour être plus vert, donc, si on revient à ça, c'est intéressant, là, parce que là, vous nous avez expliqué un peu votre métaux, là, donc, avec cette méthodologie-là, quelle est votre conclusion? Est-ce qu'il faut mieux se déplacer en moto ou en auto? Là, on parle d'éco-énergétique, évidemment. Là. On ne parle pas de briser
ou tout ça. Oui,
bien sûr.
Exactement. Ben, moi, ce que j'ai trouvé dans la littérature, c'est que pour une même distance, transporter une personne sur une moto, ça a environ 2 à 3 fois moins d'impact que de transporter une personne en auto solo, c'est-à-dire une personne toute seule dans son auto. Mm-hmm. Et cette conclusion-là, elle serait valide pour presque tous les impacts environnementaux, sauf pour les émissions liées aux particules fines. Et là, en fait, on voit que c'est vraiment une tendance inverse. Les moteurs 2 temps, c'est vraiment 3 fois plus d'impact que l'auto solo. Puis les moteurs 4 temps, ça a à peu près des impacts similaires pour l'auto, pour ce qui est des particules fines. Ouais. Mais là, je me demandais, ben, dans le fond, combien il faudrait de personnes dans une auto pour que l'auto devienne moins impactante que la moto. Puis mon petit calcul m'a dit que, ben, en fait, il faudrait au moins 2 personnes dans l'auto pour que par personne, ce soit plus intéressant de prendre une auto que de prendre une moto.
Donc, à 2 personnes. Donc, si on part en voyage, en général, les gens qui partent en moto, ben, ils vont y aller une personne par moto en groupe ou deux personnes sur une moto. Quand on part en voyage, c'est rare qu'on part seul. Donc, en général, l'auto pourrait... En tout cas, si on part en voyage, pour le récréatif, pour être peut-être plus intéressante. Là.
Effectivement. Bon, après, c'est sûr qu'on n'a pas la même expérience, j'allais dire, en moto. Moi, personnellement, j'ai peur en moto, donc mon expérience n'est pas très bonne. Mais les gens qui l'utilisent, ce n'est pas du tout le cas. Ouais. Puis, en termes de changement climatique, ben, 1 kilomètre en moto, c'est entre 80 et 180 grammes de CO2 équivalent. Ça, dépendamment de la puissance du moteur, bien sûr. Donc, on a quand même une grande variabilité. Puis, là-dedans, ben, à peu près la moitié des impacts des motos, ça provient des émissions à l'échappement, dont j'ai parlé tantôt. Et le reste, c'est beaucoup la production de la moto. Parce qu'on l'oublie, mais produire une moto, ça a des impacts environnementaux. Alors, il faut quand même faire attention parce que si une personne, elle utilise très peu sa moto, ben, l'impact de la production de la moto par kilomètre, elle peut devenir assez élevé. Donc, en d'autres termes, ça veut dire si vous avez une moto, ben, essayez de la rentabiliser au mieux. C'est ce qui fera le plus de sens.
On parlait des Harley-Davidson tout à l'heure. On sait qu'Harley-Davidson, vraiment, pour certains, c'est littéralement un sacrilège, là, mais se lance dans la moto électrique parce que les nouvelles générations ne veulent plus être associées nécessairement à ce style-là qui est très typé. Là. Donc, la moto électrique se développe même chez Harley-Davidson. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Oui, j'étais aussi curieuse de savoir la moto électrique. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé, une étude récente qui nous disait qu'il y avait un avantage de la moto électrique par rapport à la moto conventionnelle en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques. Et ce, en prenant toutes les étapes du cycle de vie, donc en incluant la batterie, la production de l'électricité. Et d'ailleurs, cette publication nous disait, ben, plus le mix électrique est bas en carbone, comme basé sur l'hydro, par exemple, comme au Québec, et plus ce sera intéressant d'avoir justement ces motos électriques. Donc, ça paraît pas fou. Mm-hmm. Par contre, ce que disait la publication aussi, c'est que la moto électrique, apparemment, ne présente pas vraiment d'intérêt pour réduire les impacts liés aux particules fines. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que on a besoin d'une batterie pour une moto électrique et que la production de cette batterie, elle requiert une grande quantité d'énergie. Et la production de cette énergie, elle a souvent lieu en Chine. Et là, l'électricité est fortement émettrice en particules fines. Mmh. Donc, en fait, on gagne d'un côté, on a moins d'émissions à l'échappement, mais on a plus d'émissions dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est quand même intéressant et probablement une avenue à creuser, en tout cas.
Oui, il y a une délocalisation, si on veut, d'une certaine manière, de l'émission de particules fines, si on prend les motos électriques. Mais voilà, c'est très intéressant. Puis, on est vraiment là dans... en plus, vous nous avez expliqué très, très bien votre méthodologie. Bref, il reste encore même quelques mois. L'été est loin d'être fini. Puis, même l'automne, la moto est encore très, très prisée jusqu'à tard dans la saison. Bien, merci beaucoup pour ces lumières. Alors, Patouillard, je rappelle que vous êtes chercheur au CIREG.
Ça me fait plaisir.
Merci.
Moteur de recherche, l'émission qui répond à vos questions en techno, science, santé et consommation.
On va maintenant parler de matériaux pour fabriquer ces équipements de protection individuelle. Ça touche vraiment d'une certaine manière la mode, hein, parce que il y a du tissu, il y a des chaînes d'approvisionnement. Et donc, on va parler de ça avec notre chroniqueuse Madeleine Goubeau, qui est chargée de cours à l'École supérieure de mode de l'ESG. Et donc, en lien avec la COVID, question, si on fabrique le matériel de protection médicale ici, faut toujours bien importer les matières pour les fabriquer? Non. Est-ce qu'on pourrait encore là, rencontrer un nœud dans cette chaîne de distribution? Excellente question. Madeleine, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Bien, c'est effectivement une bonne question parce que c'est vrai que quand on pense à l'industrie de l'habillement, on va toujours penser à l'étape de la confection. Quand on dit qu'un vêtement est fait ici, en fait, ce qu'on veut généralement dire, c'est qu'il est cousu ici. Mais on oublie qu'avant de coudre le vêtement, ça prend un textile qui, lui, doit être tissé, tricoté ou feutré, peu importe. Et pour créer ce textile-là, ça prend du fil. Et pour faire ce fil, ça prend une fibre, qu'elle soit naturelle comme le coton ou synthétique comme le polyester. Et là, si en plus on parle spécifiquement du domaine médical, ça prend souvent une étape de traitement du tissu pour venir apposer une espèce de microscopique pellicule dessus, qui est une pellicule qui permet de donner en fait les différentes propriétés, là, notamment antimicrobiennes et tout ça. Mm-hmm. Puis là, après ça, il faut aussi ajouter une étape de test, parce que dans un contexte d'équipement médical, il faut avoir l'expertise et la machinerie pour certifier l'équipement de protection selon des standards qui sont très précis. Alors, si on revient à la question de départ, effectivement, si on voulait se dire entièrement autonome au Québec ou au Canada en termes de production de nos propres équipements de protection individuelle, si jamais il y avait une deuxième vague de COVID très importante, il faudrait effectivement avoir tous ces maillons-là sur notre territoire, pas juste la confection là, en termes de couture.
Oui, vous l'avez dit, ils sont nombreux, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils sont là, tous ces maillons-là?
On a presque tout ce qu'il faut, en fait. J'en ai discuté avec le directeur général de Technitextile Québec, Danny Charret, qui lui, en fait, dirige une espèce de grappe industrielle qui rallie les acteurs du textile technique de la province. Et c'est assez surprenant de constater à quel point, au Québec, on a un écosystème très complet dans le créneau du textile technique. Donc, quand on parle de textile technique, là, c'est pour les pompiers, pour l'armée, pour le sport, pour l'ameublement, pour les chantiers de construction. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à l'industrie de la mode qui est presque entièrement concentrée à Montréal, celle du textile technique, elle est répartie un peu partout en région. En Beauce, Chaudière-Appalaches, Montérégie, Estrie, c'est des emplois en région, environ 12 000 emplois qui sont répartis dans plus ou moins 420 entreprises,
même,
un peu partout. Oui, non, c'est ça.
12 000
c'est
emplois dans 420 entreprises, c'est appréciable.
C'est le double de l'industrie du caoutchouc. Je sais qu'on ne fait pas des tonnes de caoutchouc au Québec, mais il reste que 12 000 emplois, c'est pas rien. Et ça fait en sorte que quand on regarde les maillons dont je vous parlais, il y a toujours au moins 2-3 usines pour chaque créneau. Donc, pour chaque étape, le filage, le tissage, l'enduit, les tests. La seule chose qu'on n'a pas sur le territoire et qui fait donc qu'on n'est pas entièrement autonome, c'est la production de la fibre avec laquelle on fait le fil. On fait pas de coton ici, on n'a pas les granules de polyester ou d'une autre fibre synthétique. Ça, on continue de faire venir ça d'ailleurs.
Et donc, vous avez parlé de ces fameuses grappes, est-ce qu'elles sont là depuis longtemps ou il y en a certaines, en fait, peut-être certains éléments de ces grappes-là qui ont été créés là, à la suite de l'arrivée là, de ces petits gènes viraux?
Bien, la plupart existaient déjà. Et c'est là que ça peut sembler le plus surprenant peut-être pour nos auditeurs, parce qu'on a souvent l'impression qu'au début des années 2000, toute l'industrie textile québécoise a été délocalisée vers l'Asie. Et c'est vrai que ça a été une hécatombe au Québec dans le domaine de la mode et de l'habillement à ce moment-là, qu'on appelle la fin de l'accord multifibre. Ça, c'est un accord qui limitait les quantités de vêtements et de textiles qu'on pouvait importer de l'Asie. Par contre, les entreprises qui ont survécu à cette vague-là, ce sont en bonne partie celles qui ont su se tourner vers les textiles techniques à cause de sa valeur ajoutée qui venait justifier le fait de continuer à produire ici. Donc, après 2000, on peut dire que ce qu'il restait de l'industrie textile mode québécoise, c'est en bonne partie réinventé dans le textile technique. C'est un créneau qui peut être utile en mode, surtout qu'on aime pas mal là, les trucs techniques ces temps-ci la mode, mais c'est un créneau qui est surtout utile là, dans des domaines moins glam, comme je vous disais tantôt, la défense, la protection, le médical, le chantier. Et là-dessus, il y a une réelle expertise reconnue qui s'est développée au Québec, dont on parle rarement, mais qui est bien vivante ici.
Très intéressant. Il n'y a pas que le athleisure dans la vie. C'est bon pour
c'est
bon pour Instagram, là, mais ça ne fait pas des enfants forts pour la COVID. Mais les entreprises, donc, ces entreprises-là, Madeleine, elles ont dû être vraiment sursollicitées là, avec ce qu'on a connu dans ces derniers mois. Eux, ils n'ont pas dû connaître une grande pénurie. En fait, ils ont dû avoir une pénurie de main-d'œuvre parce que ça devait être très en demande.
Bien, en fait, moi, là, ce qu'on m'a dit, c'est qu'elles ont eu l'impression d'être au front. Elles aussi, bien, si elles n'étaient pas dans les hôpitaux, là, c'était un sentiment là, de se battre pour réussir à produire. J'en ai discuté avec le PDG du groupe CTT, Olivier Vermersch. Le groupe CTT, c'est un centre d'excellence en recherche, développement et innovation dans le domaine textile. Et eux, durant les 6 semaines les plus intenses de la crise, ils ont conseillé et accompagné 300 entreprises canadiennes du domaine du textile technique pour qu'elles adaptent leur offre à la demande qui était engendrée par la pandémie. C'est un mandat qui avait été donné au groupe cet été par le gouvernement. On se souvient qu'il y avait un urgent besoin de matériel. Mais en même temps, c'était gagnant pour les entreprises aussi de prendre ce virage-là parce que les commandes habituelles de textile, elles ne rentraient plus à cause de l'arrêt de l'économie. Et donc, même si elles n'étaient pas habituées d'être dans le médical, elles avaient intérêt à se tourner vers ça pour maintenir leurs activités. Donc, du coup, les capacités de production ont été accrues, l'éventail de types de matériaux produits localement a été diversifié et les tests pour certifier ces matériaux-là ont été mis en place à vitesse grand V et ça leur a permis de produire plus de 3 millions de mètres de tissu seulement dans cette période-là.
C'est vraiment très intéressant. Vous nous faites découvrir un aspect, en tout cas, de notre économie qui est souterrain, même si, comme vous l'avez dit, là, c'est énorme, là, 12 000 emplois, 420 entreprises. Est-ce que dans le futur, ce matériel de protection individuel dans le système de santé, est-ce qu'il va être complètement local? Est-ce que ça va être un matériel bleu?
Bien, en fait, la pérennité de tout ça va dépendre de la volonté du gouvernement d'acheter des équipements de protection individuelle réutilisables versus jetables. Pourquoi est-ce que ça change quelque chose? Parce qu'en fait, les blouses et les masques jetables, même s'ils peuvent être confectionnés ici, donc cousus ici, ils ne sont pas faits de matière produite ici. Le niveau de qualité et de technicité requis pour le jetable ne justifie pas une production locale par nos entreprises québécoises qui sont axées sur la valeur ajoutée. Or, ce que mes deux intervenants me disaient, tant Olivier Vermersch du groupe CTT que Dany Charret de Technie Textile Québec, c'est que les appels d'offres du gouvernement, en ce moment, c'est pour du jetable. Et donc, tous deux déplorent un peu cette tendance-là parce que la réalité est que si on veut garder en vie cette chaîne de production locale d'urgence, si on veut, dont on s'est doté, qui va de la production de fil à la certification de produit, ben, il faut que ça reste viable pour les entreprises. On ne peut pas leur demander de garder tout ça stand-by au cas où il y aurait une autre crise. Donc, il faut pouvoir leur assurer des volumes en tout temps. Sinon, elles vont retourner là, à leurs anciennes activités.
Mais en même temps, Madeleine, on le sait, le jetable, là, c'est bon là, dans l'urgence, mais on le sait que ça ne rend pas service à l'environnement. L'aspect environnemental, on ne peut quand même pas le mettre de côté, là, même si on est en pandémie. Non, ça ne pourrait pas avantager d'une certaine manière les entreprises d'ici?
Ah ben c'est clair. En fait, c'est un enjeu qui a plusieurs facettes et c'est ce que font valoir le groupe CTT et Technie Textile Québec en disant, entre autres, que chaque blouse ou masque réutilisable peut, mine de rien, remplacer 50 ou 75 produits jetables. Ouais, donc, c'est pas rien. Oui, il y a les coûts en termes d'achat, mais il faut voir aussi les coûts environnementaux derrière tout ça. Étant dit, je suis pas une experte de la logistique du réseau de la santé. Il y a peut-être des raisons, dans certains cas, pour le jetable, mais pour ce qui est possible, c'est sûr que d'acheter du réutilisable, ça permet, un, de maintenir l'expertise nécessaire pour réagir en temps de crise, deux, d'injecter de l'argent dans des entreprises locales dans un contexte où on demande un peu aux consommateurs de faire ça, de stimuler l'économie du Québec, et trois, ben, comme vous le disiez, ce serait effectivement moins dommageable pour l'environnement. Et eux ont l'intention là, de se faire entendre par rapport à ça dans les prochaines semaines, prochains mois.
Wow, c'est vraiment très intéressant. Écoutez, vous m'avez fait découvrir aujourd'hui un aspect peu connu et ô combien pratique de notre économie. Puis en plus, c'est quasiment tout local, cette chose-là. C'est vraiment très intéressant. On vous remercie de nous envoyer les questions qui nous permettent donc de relancer nos chroniqueuses, nos chroniqueurs. N'oubliez pas, moteurderecherche@radio-canada.ca. Madeleine Goubeau, toujours un plaisir. Puis vraiment très content de vous savoir de retour avec nous pour cette nouvelle saison de Moteur de recherche.
Bien contente d'être là. Merci.
Puis, bien hâte de vous voir en studio aussi.
Oui, oui, en personne.
Mais on vous met garder une petite place aux choses, allez voir. À bientôt, Madeleine.
Au revoir.
Bye-bye.
Chaque jour, Moteur de recherche analyse pour vous un chiffre ou une statistique.
Et juste avant, je vous dis qu'en fin d'émission, on va parler avec Fabien Lozac du Microsoft Flight Simulator. Est-il le plus beau jeu vidéo du monde? Et on va parler de vos données médicales que le gouvernement du Québec veut vendre. Est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que ça se fait de bonne manière? Et donc, on va en parler avec un spécialiste de la question. Mais auparavant, donc, le chiffre, je vous parlais d'océan extraterrestre en début d'émission et de bruine, fine bruine. De ces océans-là. Eh bien, il y en a un à 800 millions de kilomètres de la Terre, cet océan. Et donc, c'est un livre qui vient de paraître. C'est un planétologue qui travaille au Jet Propulsion Laboratory. C'est vraiment une institution mythique dans l'histoire de l'exploration spatiale. Il s'appelle Kevin Peter Hand. Et donc, il s'intéresse entre autres à ce mystérieux océan d'eau salée qui est situé où? Sur la Lune Europa, qui est une lune de Jupiter. Le livre s'intitule « Alien Oceans, The Search for Life in the Depths of Space », donc « Les océans extraterrestres, la recherche de vie dans les profondeurs de l'espace ». Et ce sont de vraies profondeurs physiques. En fait, il n'y a pas sur la Terre que sur la Terre ou Europa qu'on retrouve des océans dans le système solaire. Il y en a beaucoup. Je dois vous dire pour le moment que je n'ai pas lu le livre. Je me le suis commandé parce que là, ça fait plusieurs articles que je lis sur ce livre et sur Kevin Peter Hand. Selon les premières observations qui ont été faites par la sonde Galileo au tournant des années 2000, l'océan qu'on retrouve sur Europa recouvre toute la surface de la Lune, mais il est sous une épaisse couche de glace. Donc, imaginez, là, la Lune est glacée au complet, mais en dessous, il y a de l'eau. La température de cet océan-là oscillerait entre 0 et moins 10. Il est très glacé. En fait, il est très salé. Donc, ce qui expliquerait que cette eau pourrait être liquide en dessous de 0. Ça peut paraître froid pour nous, mais Kevin Peter Hand souligne dans plusieurs entrevues que depuis qu'on sait qu'on peut retrouver de la vie sur Terre dans les fosses les plus profondes, à des pressions et des froideurs incroyables, mais on s'attend de plus en plus à ne pas être étonné si jamais on trouve retrouvait des traces de vie dans une mer subglaciaire en orbite autour de Jupiter. Donc, le planétologue précisait même récemment de manière plus légère que si l'on se fie aux observations de la sonde Cassini, qui a observé des geysers d'eau sur une autre lune, Encelade, une lune de Saturne, qui abriterait elle aussi un océan, mais si on pouvait envoyer un astronaute à sa surface ou à tout le moins une sonde, bien, la vue qu'on pourrait voir sur Encelade, ce serait tout simplement fantastique. Imaginez, vous êtes sur une lune qui est à 200 000 km de Saturne. Mm-hmm. C'est pas loin, là. C'est moins loin que la distance de notre lune à la Terre. Et Saturne fait 120 000 km. Ah, alors, vous êtes très proche de Saturne. Vous voyez les anneaux. Et là, il y a des geysers qui lancent des particules d'eau qui se transforment en glace. Et donc, il y a des petites pluie de glace qui vous tombe dessus pendant que vous regardez les anneaux.
C'est beau qu'Avatar, ça.
C'est, ouais, c'est quand même pas besoin de film de science-fiction, d'ailleurs. Imaginez, et donc, vous allez pas pouvoir vous rendre sur Encelade avant très, très longtemps, mais cette pluie et cette vue, bien, elles existent. Les océans extraterrestres aussi. Et donc, j'ai très, très hâte de recevoir mon exemplaire de Alien Oceans.
Dans l'actualité de Moteur de recherche.
Bon, là, ça va être un peu moins drôle. Ce sera au ras des pâquerettes, mais pas parce que c'est notre invité qui est passionnant. Bryn William Jones, bonsoir.
Bonsoir.
Désolé de vous avoir présenté. C'est parce qu'on était dans les cieux d'Encelade et de Saturne, et là, on va parler de la vente de nos données médicales. Donc,
on passe de quelque chose de un extrême à l'autre.
Eh oui, on va le dire comme ça. Je rappelle, Bryn William Jones, que vous êtes directeur des programmes de bioéthique et professeur titulaire au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Le 20 août dernier, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, déclarait que le gouvernement envisageait de vendre les données médicales de la RAMQ à l'industrie pharmaceutique. Et là, je le cite, « La stratégie du gouvernement, c'est carrément de vouloir attirer les pharmas, quelques pharmas, à venir jouer dans nos plates-bandes, profiter de ça, et je pense qu'on a une chance incroyable d'y arriver. » Moi, je veux savoir d'emblée, Bryn William Jones, quand vous avez entendu ça, ça a été quoi votre première réaction?
J'ai un peu tombé de ma chaise. Et un peu cette réaction de Homer Simpson.
C'est une belle image.
C'est exemple de, OK, on lance dans quelque chose où évidemment on démontre qu'on ne sait pas de quoi on parle. C'est un sujet sensible depuis des années. Franchement, en tant que bioéthicien qui enseigne un cours actuellement sur éthique et politique de santé, c'est le sort de matière que je vais utiliser dans mon cours de jeudi soir. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que c'est un exemple d'une monétisation des données personnelles et un manque de compréhension de la complexité de cette information, son pertinence pour la recherche, pour l'avancement des connaissances, mais aussi son sensibilité. Le fait que c'est là avec raison pour soutenir la société, mais c'est aussi quelque chose de précieux et on doit être prudent dans son utilisation.
Oui, mais en même temps, on le sait, là, les entreprises les plus valorisées actuellement dans le monde, elles le sont parce qu'elles sont assises sur cette mine qui s'appelle les données des utilisateurs, que ce soit Amazon, que ce soit Facebook. Bon, Amazon nous envoie des livres, là, mais ce pourquoi ils sont capables de le faire, c'est parce qu'ils ont des données considérables sur nos habitudes d'achat.
Des données biométriques.
Des données biométriques.
Absolument. Apple Watch, Garmin ont des données biométriques, dont des données vitales de l'être humain.
C'est absolument, c'est très juste, Fabien. Mais donc, Bryn, dites-moi, vous avez, on le sait, là, c'est une mine d'or. C'est pas une bonne chose pour un gouvernement de se dire, bien, nous, on en a des données médicales, puis on va les rendre disponibles, puis on va faire de l'argent en même temps qu'on va faire avancer la recherche.
Non, parce que c'est ce qu'on va le faire, c'est dans cette logique, on va donner les ressources de la collectivité, les Québécois, à une compagnie. Et en faisant ça, on perd beaucoup de contrôle. Et aussi, ce n'est pas juste évident que le rendement va être à l'auteur de la vraie valeur de ces données. Il y a des chercheurs qui appellent depuis des années pour avoir plus d'accès, et avec raison, parce que ces données sont très utiles pour la recherche et également pour l'industrie. C'est la raison que Amazon, Google et tout autre veulent nos métadonnées, parce que c'est le nouveau money courant. Mais cette information dans les mains d'une industrie, ben, ils sont utilisés pour le développement économique, pas nécessairement pour répondre aux besoins des Québécois, le développement de nouveaux ressources qui répondent à nos besoins et pas juste pour générer de revenus pour une compagnie multinationale.
Vous qui êtes bioéthicien, là, qui voyez les bons et les moins bons coups qui se font dans le monde, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde, justement, où on a utilisé ces données-là d'une bonne manière? Parce qu'ici, là, il y a déjà des chercheurs là, qui les utilisent, ces données de la RAMQ. Donc, on veut, d'une certaine manière, rendre ça peut-être plus disponible à des multinationales. Mais est-ce qu'il y a des bons exemples, dites-moi, dans le monde, d'une utilisation de ces données-là?
Juste ici au Québec, on a développé toutes sortes de biobanques, de projets de recherche pour donner accès à des chercheurs dans les universités pour travailler à développer une meilleure compréhension de l'état de la santé de la population. De trouver, surtout dans le contexte actuel de COVID-19, on a besoin de mieux comprendre quels sont les indices qui nous permettent d'identifier un domaine problématique, un secteur, comment mieux réagir. Ça, c'est la bonne utilisation des données et ça prend la recherche et ça prend accès à des données qui sont protégées de façon éthique, responsable, en reconnaissant toutes les lois qui protègent la vie privée des Québécois pour que collectivement, on bénéficie d'une meilleure compréhension de notre comportement et quels sont les éléments à risque et quelles sont des opportunités pour prévenir la transmission de ce virus.
Donc, vous dites qu'on pourrait le faire bien et autrement, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin de passer par ces compagnies pour trouver de la valeur à cette donnée-là. On pourrait le faire en les utilisant mieux et en les rendant disponibles aux groupes de recherche qui existent déjà dans nos universités, c'est ce que vous nous dites.
Exactement, parce que, rappel, les compagnies pharmaceutiques vont dire « j'ai besoin de cette information pour créer la valeur et de développer un nouveau médicament ». Mais la réalité, c'est la recherche fondamentale et la recherche appliquée, c'est fait dans les universités. Les compagnies pharmaceutiques font la dernière étape dans les essais cliniques et dans le marketing de la résultat de cette recherche. Mais ce travail en amont, c'est fait par les chercheurs et c'est payé par l'État via nos fonds de recherche fédéral et provincial. Mm-hmm. Donc, le chercheur est déjà omniprésent dans ce domaine, mais son contribution est souvent moins valorisée que le fin commercial qui donne les droits de propriété intellectuelle, des brevets et tous les rendements, même que l'État est déjà payé en amont. Même si, comme le ministre Fitzgibbs a dit après, non, c'est pas pour l'industrie pharmaceutique, c'est pour l'IA et le développement des meilleurs outils de ce genre. Oui, mais la même chose, ces données sont parties d'un bien collectif et doivent être respectées à cette façon comme contribution, comme aspect de notre engagement comme citoyen. Mm-hmm. Et de reconnaître cette pleine valeur, c'est un des problèmes qu'on voit actuellement avec Google, Amazon, etc. Ouais. C'est on n'a pas de choix et nos valeurs sont sous-valorisées pour qu'est-ce qu'ils nous donnent. Et eux, ils reconnaissent une pleine valeur qu'il n'est pas nécessairement bien partagée avec nous en tant que citoyens ou utilisateurs de cette ressource, mm-hmm. parce qu'on n'a pas vraiment de choix.
Ouais. On a vraiment développé à Montréal une expertise éthique. Vous avez mentionné intelligence artificielle, vous êtes bioéthicien. En 2017, l'Université de Montréal lançait les travaux de co-construction de la fameuse Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, où on disait justement qu'il fallait notamment que ces données médicales soit bien utilisée, qu'elle soit faite dans une éthique de responsabilité, de protection donc de la vie privée des gens. Selon ce que vous avez entendu, est-ce que l'annonce qui a été faite par le ministre Fitzgibbon est bien articulée, se colle bien sur la lettre et l'esprit de cette déclaration de Montréal?
Mais pas du tout. C'est loin de ça. C'est loin des normes en éthique et recherche qui existent depuis une cinquantaine d'années, où on fait une reconnaissance de l'importance de la protection de la vie privée, la valeur de cette information pour des individus, le fait qu'on peut valoriser ces données d'une façon respectueuse pour avancer le développement des connaissances, pour contribuer à le bien commun. Mais en mettant en place les balises nécessaires pour assurer que c'est fait pour des fins que les gens acceptent, qu'ils comprennent et qui soient bénéfiques pour eux en tant que membres de la société, pas juste pour un multinational.
C'est quoi les dangers? Parce que là, les gens disent, bah oui, mais là, mes données, ils sont déjà utilisées. D'ailleurs, on a eu plusieurs articles qui ont été faits, notamment avec le logiciel KinLogix là, de TELUS, là, où on se servait des, de données médicales de médecins. Elles sont déjà utilisées un peu partout. En quoi est-ce que ça, c'est dangereux? Qu'est-ce qui pourrait arriver comme problème là, qui créerait une brèche, par exemple, dans la vie privée des gens avec ce qui s'en vient, là, selon vous?
Donc, déjà, c'est dans la manipulation hyper ciblée de nos comportements. Un des grands risques soulevés par les éthiciens, par les informaticiens autour des métadonnées dans les mains des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, c'est qu'ils sont en mesure de manipuler nos comportements et on ne sait pas. Parce qu'eux, ils nous connaissent mieux, nous, que nous-mêmes sur nos propres comportements parce qu'ils sont en mesure d'agréer toute cette information. Mm-hmm. Avec les données biomédicales, c'est la même sorte de chose. C'est d'être en mesure de créer un portrait des citoyens, des cliniciens, de diriger le comportement des cliniciens quand ils font des ordonnances. Ils disent « Ah, Brent, tu as besoin vraiment de ce nouveau médicament. » Ben, il a un portrait peut-être sur moi en tant que patient, mais également sur le comportement de mon médecin. Et donc, en mesure d'orienter certaines interventions plutôt que d'autres. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que l'intervention, c'est un médicament au lieu de la psychothérapie? Peut-être que Brent a besoin vraiment de discuter avec un thérapeute parce qu'il est déprimé, parce qu'il a passé trop de temps devant son ordi depuis 6 mois. Il n'a pas besoin du Prozac.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, ces éléments sont partis de cet danger général de créer un besoin pour des interventions que peut-être on n'a pas vraiment besoin.
C'est vraiment très inquiétant ce que vous nous dites et le doute de Homer Simpson en début d'entrevue, en tout cas, semble bien résumer votre état d'esprit actuellement. Brent William-Jones, je rappelle que vous êtes directeur des programmes de bioéthique et professeur titulaire au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On remercie Michel Valois de nous avoir envoyé la question qui nous a permis de vous appeler et d'avoir ces lumières. Vraiment très, très intéressant. Je rappelle notre adresse moteur de recherche @radio-canada.ca. Brent William-Jones, merci beaucoup pour cette entrevue. Au plaisir de vous reparler.
Merci à vous.
Au revoir.
Moteur de recherche techno.
Bien là, on va terminer sur une note un peu plus légère. On sait qu'on ne peut plus tellement voyager, ou presque pas. Là, on dirait que Microsoft a pensé à nous, vient de lancer le jeu. En fait, c'est une nouvelle itération de son jeu vraiment mythique qui s'appelle Microsoft Flight Simulator. On a dit qu'il était supposément le plus beau jeu vidéo au monde. Et en fait, c'est une question, c'est un auditeur qui nous a relancé. Il dit « Allô Mathieu, j'ai vu qu'on avait sorti une nouvelle de ce jeu, Microsoft Simulator, blablabla. » On dit que c'est le plus beau jeu au monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? C'est quoi ce jeu, son histoire? Bref, on vous a donné ça, Fabien. Bonsoir, Fabien.
Bonsoir.
Vous vous êtes plongé, vous avez volé, vous avez fait le tour du monde 8 fois. Donc...
J'ai regardé des blogs, des forums de fans aussi. Là.
C'est quelque chose.
Ben oui,
c'est une culture en soi.
C'est une culture en soi. Parce que les simmers, là, les fans de Flight Simulator, ils attendaient ce moment-là depuis 14 ans et ils ne sont pas déçus parce que le jeu émerveille. Et même ceux qui ne jouent pas vraiment, moi je ne suis pas vraiment le gamer type de ce jeu-là. Mais hier, avant de me coucher, j'étais sur TikTok, puis je regardais des gens faire des défis, faire passer un 747 sous le Golden Bridge, atterrir à l'aéroport le plus dangereux du monde. Vous le connaissez, Mathieu?
Ça doit être en altitude.
Népal. Lukla. Lukla au Népal. Ouais, c'est pas évident l'atterrissage.
Bon, bref, quelle est cette histoire de la franchise? Parce qu'elle est longue, hein, quand même.
Ouais, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, bon, on en parle beaucoup en ce moment, mais ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une des franchises historiques du jeu vidéo. C'est la franchise la plus ancienne de Microsoft. Elle est même plus ancienne que Windows, qui est née en 1985. Parce que la première version du jeu, elle est sortie en 1979, non pas sur PC, non pas sur l'environnement Microsoft, mais sur l'Apple II.
Quelle anecdote!
À l'époque, il fallait avoir de l'imagination. L'interface était en noir et blanc uniquement. Et en 1981, il y a la jeune compagnie américaine Microsoft qui est née 6 ans plus tôt, en 1975, qui obtient la licence du jeu pour PC. Et il faut savoir que Microsoft était entré dans le marché des systèmes d'opération, donc les OS, qui fait tourner votre ordinateur, 1 an plus tôt. Et Flight Simulator, ça permettait de tester la fiabilité de cet OS, le fameux MS-DOS.
MS-DOS!
Pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, le Microsoft Flight Flight Simulator, le premier du nom, le 1.0, il sort en 1982. Et une des publicités de l'époque affirmait même « Si voler sur un PC devenait plus réaliste, il vous faudrait passer votre licence de pilote. » C'est du beau, hein? C'est du
wow,
beau.
C'est vous qui publicitaire, vous devez
j'ai beaucoup aimé ça.
Frétiller, ouais.
Après ça, une série de mises à jour d'une douzaine de titres qui ont suivi les avancées technologiques des systèmes d'opération de Microsoft. Et d'ailleurs, une des raisons d'être de la série, ça a longtemps été de faire la démonstration de la supériorité technologique des micro-ordinateurs. Mm-hmm. Dernier opus, c'est 2006 avec Flight Simulator X, qui est connu sous le nom de FXX. Et après ça, Microsoft va ignorer un peu la franchise et se concentrer sur la Xbox, qui était plutôt leur console de jeu. Mm-hmm, mm-hmm.
Mais là, le jeu est sorti, on sait, les critiques sortent presque dans la minute où le jeu est rendu disponible. Qu'est-ce que dit la critique sur ce jeu?
Bon, elle est, je dis, dithyrambique. On parle du plus beau jeu du monde. Vous connaissez peut-être l'adage de l'écrivain britannique, je sais que vous l'adorez, Arthur C. Clarke.
Mm-hmm.
2001, Odyssée de l'espace. Il dit « Toute technologie suffisamment avancée nous apparaît comme magique. » Et on a ce sentiment-là, on a eu ce sentiment avec le premier iPhone, avec Alexa. Et c'est ça le sentiment qu'on a avec Microsoft Flight Simulator. C'est réellement une expérience magique de se promener. On promène le curseur de sa souris sur le planisphère du jeu. On clique n'importe où et on vole dans une espèce de réalisme quasi photographique. Chaque rue, chaque maison.
Souvent, c'est difficile d'expliquer comment un jeu vidéo fonctionne aux néophytes, mais avec le jeu Microsoft, dites-vous bien là, que c'est comme vous rentrez dans un 747, vous êtes le pilote du 747 et vous partez de Montréal-Trudeau, vous allez à Charles de Gaulle. Et c'est comme si vous y étiez ou presque.
Il y a un défi technologique derrière ça. Je veux dire, juste un chiffre. Au lancement, le jeu affichait 5 milliards de maisons, 2 trilliards d'arbres à travers le globe. Alors, bien évidemment, les développeurs du jeu, qui a été produit par un petit studio français du nom d'Asobo, n'ont pas intégré ces éléments à la main comme ça se fait traditionnellement dans un jeu. Ils ont utilisé la technologie de la génération procédurale, c'est-à-dire la création d'éléments à grande échelle de manière automatisée grâce à l'intelligence artificielle et des algorithmes. Et pour ça, ils ont utilisé plusieurs grandes bases de données. Mm-hmm. La première, c'est les images satellites de Bing Maps. Donc,
qui appartient à Microsoft.
Qui appartient à Microsoft, c'est le concurrent de Google Maps. Des données issues de OpenStreetMap, qui est un projet collaboratif de cartes ouvertes. Ces images-là, elles sont quand même en deux dimensions. Alors, pour donner de la hauteur aux villes notamment, le jeu s'appuie ici sur des scans photogrammétriques haute résolution. Donc, c'est une technique qui va consister à effectuer des mesures en comparant différents points de vue entre différentes photos. Et donc, avec tous ces éléments-là, avec la génération procédurale, les bâtiments, leur forme, leur emplacement, leur hauteur sont générés automatiquement en temps réel à partir de ces conjugaisons de bases de données. Mm-hmm. On va même corriger les lacunes. Par exemple, les bases militaires, elles ne sont pas cartographiées. Il y a des endroits qui sont flous. Il y a des endroits qui sont faits à la main, comme des monuments historiques aussi là-dedans.
Oui, c'est ça. Et il faut dire qu'en général, les avions, quand on est dans un avion de ligne, on est à 40 000, 50 000 pieds. On voit rarement les villes de proche. Et donc, c'est ça. Là, souvent, on va se permettre des choses dans Flight Simulator qu'on ne pourrait absolument jamais faire dans la vie normale sans recevoir un missile derrière la tête. Ouais. Mais donc, certains ont qualifié, Fabien, cette simulation, littéralement, j'ai vu ça, de jeu total. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut dire par là?
Ben, total, oui, dans le sens de planétaire. C'est, vous avez parlé tout à l'heure de tourisme, c'est l'expérience de tourisme ultime. Et le fait qu'on soit en période de COVID a sûrement profité, le fait qu'on ne puisse pas voyager. On peut voler partout sur la planète, du Mont Everest à New York, à Madagascar, Tokyo. On peut même survoler la Corée du Nord. Vous parliez de prendre un missile tout à l'heure. Vous pouvez maintenant voler au-dessus de la Corée du Nord de façon complètement sécuritaire. Mm-hmm. Mais c'est impressionnant d'aller dans ces endroits-là. Notre qualificatif qui a été utilisé, c'est le magazine Wired, un magazine de techno, qui a qualifié l'expérience de vallée de l'étrange. Donc, Uncanny Valley, c'est une expérience si proche de la réalité qu'elle en est dérangeante. Ouais. Elle fait presque peur. Et quand vous survolez votre maison et que votre voiture est garée devant, là, Mathieu, on n'est plus dans la simulation. Là. On est dans le monde réel. Il y a quelque chose de complètement, complètement fou. Les qualificatifs me manquent aussi ici. Il y a quelque chose d'excessivement étrange, dérangeant, quasiment presque. Mm-hmm. Le jeu va extraire aussi les données du trafic aérien, de la météo en temps réel. Fin août, il y a des chasseurs de tempêtes qui sont allés dans l'ouragan Laura avec Flight Simulator, dans l'ouragan qui traversait le golfe du Mexique.
Oh mon Dieu, OK, un instant là. Donc,
Les chasseurs de
tempêtes. En fait, ils avaient les données en temps réel.
Oui, ils sont allés dans
l'ouragan. Et l'ouragan était recréé dans Flight Simulator.
Exactement. On a des joueurs qui ont montré que les incendies de forêt en Californie se sont matérialisés dans le jeu, aussi sous forme de brouillard, par exemple. La physique du vol, il y a une attention phénoménal qui a été mis sur cette reproduction de la physique du vol, mm-hmm. la façon dont l'air circule autour d'une montagne, autour des bâtiments qui vont amener des turbulences. On a un joueur qui expliquait que lors de ses atterrissages avec son petit Cessna, il avait tendance un peu à virer à gauche. Et il a découvert que Flight Simulator tenait compte du déséquilibre de poids dans la cabine lorsqu'il y a un pilote qui est tout seul sans copilote.
D'où le nom Simulator. Là.
C'est ça.
C'est incroyable. On a pris le titre à la lettre.
Oui,
là,
c'est ça. Ouais. Les gens qui se posent un peu la question, c'est un peu la question qui revient tout le temps. Est-ce que c'est facile pour les débutants? La réponse, elle est dans le nom. Là. C'est un simulateur. C'est plus un simulateur qu'un jeu, même si on a essayé de ludifier mm-hmm. un peu le jeu. Mm-hmm. C'est pas un jeu d'arcade. Vous devez savoir beaucoup de choses avant de décoller. Il y a une formation au pilotage qui a été intégrée, bien évidemment, dans le jeu. Il y a une série d'exercices de quelques dizaines de minutes. Et après ce 45, une heure, un peu plus pour les gens moins doués comme moi, vous allez pouvoir commencer à décoller sur un petit Cessna 152. Il y a des dizaines de paramètres, des centaines de paramètres que vous pouvez prendre en configuration. C'est infini le niveau de geekitude, excusez-moi, ce néologisme.
En fait, c'est la granularité qu'on peut déployer presque à l'infini. Là.
Il y a des tutoriels sur YouTube de dizaines d'heures de gens qui vous parlent du jeu. J'ai vu une vidéo hier, je l'ai regardé 2 heures, juste pour le paramétrage avant le vol.
Mais c'est généralement aussi, ça ne dure pas 2 heures là, quand on va dans un avion de ligne, mais ça prend quand même du temps. Donc, le réalisme va jusque-là. Mais là, vous avez parlé de tous ces aspects techniques, mais là, la quantité de données que l'ordinateur doit gérer, mais c'était ahurissant. Là. Ça doit prendre une bête là, pour jouer à ça.
C'est un jeu exigeant pour les joueurs, c'est un jeu exigeant pour votre machine.
Ouais.
Un PC assez puissant, mais aussi une connexion excessivement rapide parce que toutes ces informations sont stockées sur les serveurs mm-hmm. Azure de Microsoft. Et on revient à cette idée que ce jeu-là met toujours un peu en évidence la supériorité technologique. Et c'est un jeu qui montre la supériorité ou la quantité technologique qu'une compagnie comme Microsoft est capable de déployer, encore une fois.
Et qui fait appel, comme vous l'aviez dit, à toutes sortes de ces services. Hein. Ça va des cartes à l'info nuagique et qui se conjuguent dans ce jeu dont on dit qu'il est le plus beau au monde. Un jeu. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemblent les dernières itérations, allez sur YouTube, tapez Microsoft Flight Simulator, vous allez tomber sur les dernières vidéos. C'est assez soufflant.
La VR qui s'en vient aussi.
Merci.
Là.
Avec la réalité virtuelle qui s'en vient. Bref, on n'aura plus besoin d'aller à Venise.
Plus besoin de voyager,
monsieur. Ben non, on n'en va pas à Venise. Économies. On reste chez nous à faire du gras. Fabien Lozac, vraiment, merci beaucoup. Et merci à cet auditeur qui nous a envoyé ce courriel. Moteur de recherche, @radio-canada.ca. Je pense que je ne l'ai pas dit assez souvent aujourd'hui. Voilà, c'était pour une dernière fois.
Les onglets de nos collaborateurs.
Et on commence avec vous, Madeleine Goubeau. Vous nous parlez de le circuit de la grappe métropolitaine de la mode. Est-ce que vous êtes là, Madeleine? Je pense qu'elle est partie dans Flight Simulator. Laure, est-ce que vous nous entendez? Bon, ben on a des problèmes de connexion. Parlez-nous donc, Fabien, du rabbit hole, donc qui est ce balado du New York Times. Et on découvre véritablement des réalités qui sont un petit peu moins belles que celles de Flight Simulator.
Ben, référence explicite à Alice au Pays des Merveilles. Quand on rentre dans le terrier du lapin, on ne sait pas trop où on se retrouve. Le New York Times est assez connu pour son podcast de Daily. Mais là, ce podcast-là, lancé en avril, qui explique comment une génération entière a échangé la télé pour YouTube et comment les algorithmes de YouTube ont pour effet pervers de polariser le débat public à droite comme à gauche. Mm-hmm. C'est pas partisan. Comment les médias traditionnels, même les plus sérieux, ne comprennent pas vraiment la culture web, finissent par les caricaturer, ils s'aliènent ces personnes-là qui continuent à aller sur Internet. Et ça va plus loin, on voit qu'il y a véritablement, et c'est là que nous amène le podcast, on voit qu'il y a véritablement un schisme idéologique aux États-Unis qui est assez profond, qu'on voit aussi.
Et qui
ici,
est accéléré arriver. Aussi par les algorithmes, hein, parce qu'il faut dire que ce rabbit hole-là, est le carburant de ce rabbit hole, ce sont les algorithmes.
Ce sont les algorithmes, exactement, vous l'avez très très bien résumé, qui vous mettent dans une bulle de filtre.
Ouais. Et qui font tomber dans ce trou noir, littéralement. Donc, très très bonne suggestion, rabbit hole, le balado du New York Times. Eh bien, voilà, ça met un terme à cette émission de Moteur de recherche. J'espère que vous avez apprécié. On est là demain, nous, 19h. Allez en paix. Bye-bye.